I'm going. You cannot come, my chérie.
Lundi 6 février, il est 16h. Bonjour au nom de toute l'équipe de CILS-FM et bienvenue dans l'émission Le Débrief. Alexis Gagnon au micro avec vous jusqu'à 17h pour faire le bilan des actualités du jour. Je vous envoie tout de suite les bulletins de Denis Lépine. On se retrouve dans 4 minutes pour la météo détaillée et la suite des informations. En interview aujourd'hui vers 16h45, nous avons Guy Matt au bout du fil. Guy Matt est directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Il nous parlera de la 19e édition des Rendez-vous de la francophonie. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Message de prudence en provenance de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada. L'agence enquête actuellement sur des plaintes qu'elle a reçues au sujet de banques qui sollicitent des demandes de cartes de crédit puis qui inscrivent les clients sans obtenir leur consentement. L'agence souligne que les banques doivent obtenir le consentement du consommateur. L'agence n'a pas encore indiqué le nombre de cas sous enquête. Les compagnies Loblaw procèdent au rappel du format de 128 ml de pommes, bleuets et petits pois, nourriture en purée pour bébés de marque PC Biologique. Le produit a été vendu à l'échelle du pays. Il a peur que le produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium. Le produit ne doit pas être consommé. L'Agence d'inspection des aliments du Canada qui supervise le rappel tient à souligner que les aliments contaminés par cette toxine ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte. Aucun cas de maladie associée à la consommation de ce produit n'a encore été signalé. Le partenariat canadien contre le cancer vient d'annoncer son appui à la campagne mondiale de l'Union internationale contre le cancer. L'initiative vise à mettre le sport au service de la lutte contre le cancer. Le partenariat canadien a souligné que d'ici 20 ans, le cancer touchera directement chaque année plus de 21 700 000 personnes dans le monde, soit 60% de la population actuelle du Canada. On revient aujourd'hui sur cette rencontre entre les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux, responsables des services sociaux. Ils ont mentionné dans une déclaration commune que trop de Canadiens vivent encore dans la pauvreté et nous sommes tous déterminés à faire en sorte qu'ils aient des chances réelles et égales de réussir. Ils ont dit aussi reconnaître la nature multidimensionnelle de la pauvreté et convenu que des discussions sur les moyens à prendre pour optimiser l'incidence des initiatives sont nécessaires, et ce pour le bien des Canadiennes et Canadiens à faible revenu. Il s'agissait de leur première rencontre depuis février 2016. L'événement se déroule jusqu'à samedi prochain. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'il encourage les Canadiens à en savoir davantage sur ceux qui œuvrent dans ce milieu. Il a dit aussi qu'au cours de la dernière année, bien le gouvernement a mené des consultations publiques afin de concevoir une nouvelle approche sur l'aide internationale. Justin Trudeau a également souligné que les efforts du gouvernement vont aider les plus pauvres de la planète, entre autres pour les droits de la personne et l'inclusion. Plusieurs rassemblements ont eu lieu en fin de semaine à travers le pays contre l'islamophobie. Des milliers de personnes se sont donc rassemblées notamment à Toronto et Montréal. Ces manifestations avaient pour but notamment de souligner l'opposition des Canadiennes et Canadiens concernant le décret signé par le président Donald Trump sur les ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Des personnes se sont même retrouvées devant le consulat américain à Toronto. Dans ce qui risque d'être le prochain gros dossier américain en politique étrangère, voilà que Mike Pence a lancé un message à l'Iran. Le vice-président américain a déclaré sur les ondes de ABC dimanche que l'Iran ne doit pas tester la détermination des États-Unis. Mike Pence a fait cette déclaration alors que l'Iran vient de faire des essais de missiles balistiques. En entrevue, bien, il a de nouveau critiqué l'accord sur le nucléaire iranien approuvé par l'ancien président Obama. Dossier des négociations entre le gouvernement Trudeau et les agents des services frontaliers du Canada. Eh bien, la médiation des 3 derniers jours n'a rien donné de concret. L'Alliance de la fonction publique du Canada a précisé que les pourparlers sont maintenant rompus. L'Alliance a fait savoir que les salaires et les conditions de travail sont au centre du litige. 8000 agents sont sans contrat de travail depuis juin 2014. Au sport, eh bien, dans la NFL, le tyran de l'arrière par 16 points avec seulement 6 minutes à faire dans le match. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont revenus de l'arrière pour remporter le 51e Super Bowl par la marque de 34-28 face aux Falcons d'Atlanta. Tom Brady a mis la main sur un 4e titre de joueur le plus utile, un record. Il est devenu également le premier carrière de l'histoire à remporter 5 Super Bowls. Au hockey maintenant, victoire d'Edmonton 1-0 contre Montréal. Les Rangers de New York ont eu raison des Flames de Calgary 4-3 et Washington a blanchi Los Angeles 5-0. Ce soir, Toronto sera New York contre les Islanders, Buffalo au New Jersey et Saint-Louis à Philadelphie. NBA victoire de Toronto 103-95 contre Brooklyn. Et au baseball majeur, les Blue Jays ont fait signer un contrat au lanceur de relève Joe Smith. Il s'agit d'une entente d'une saison.
C'était les deux bulletins quotidiens de notre collaborateur Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief. Il est 16h05, Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. C'est la neige actuellement sur Victoria. Il neige à plein ciel. La prudence est de mise si vous êtes en voiture. Donc on a zéro au centre-ville avec de la neige. C'est également -1 ou 0 du côté de Nanaimo avec un peu de neige. Les précipitations sont particulièrement fortes sur le tronçon Malahat, donc sur la route numéro 1 transcanadienne entre Victoria et Nanaimo. Donc la prudence est de mise. Il y a un avertissement, bien sûr, d'Environnement à Canada à ce sujet. Donc, averses de neige qui se poursuivent en soirée, un maximum de -1 degré. Des averses de neige qui seront parfois fortes, nous indique le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca. Et ça continue demain. On se réveille avec la neige, maximum de 2 degrés en cours de journée, mardi 7 février. Et le scénario semble vouloir se reproduire au cours des jours suivants. Je vous invite à consulter le portail météo.gc.ca. Donc, si on se transporte du côté du portail Drive BC de l'Agence des transports britanno-colombienne, on a des caméras, des webcams qui nous indiquent la condition des routes. Sur la Malahat, c'est particulièrement enneigé. Donc, ça vaut peut-être la peine de reporter les déplacements sur cette portion de route. Vous aurez également des informations en temps réel sur Drive BC, en plus des cartes qui se rafraîchissent en temps réel. Du côté de l'aéroport de Victoria, des vols ont été annulés ce matin et en cours de journée. D'autres vols ont subi des retards importants et parfois ça n'est pas en raison des conditions sur Victoria, mais celles qui sont observées à Vancouver et Seattle, tout près de chez nous. Donc ces deux villes ont reçu beaucoup de neige elles aussi et certains vols ont été annulés également. Donc à consulter sur victoriaairport.com et toujours bien sûr pour les dernières informations météo sur le portail météo.gc.ca. On se rend tout de suite au Radio-Journal des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté dans une dizaine de minutes avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous. Christina Silvero pour ce journal d'ONU Info. En titre, le conflit en Afghanistan a fait un nombre record de victimes civiles en 2016. Des experts de l'ONU s'inquiètent des répressions croissantes des défenseurs des droits humains au Burundi. Le coordonnateur de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, préoccupé par la potentielle loi de régularisation en Israël. En dossier, nous marquerons la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. On commence ce journal avec l'Afghanistan. L'ONU a appelé toutes les parties belligérantes, dont le pays, à prendre des mesures urgentes pour arrêter les meurtres et mutilations de civils. Suite au nouveau rapport de l'ONU sur la protection des civils dans les conflits, publié ce lundi. Le rapport 2016 enregistrait le nombre le plus élevé de victimes civiles en une seule année, depuis que l'ONU a commencé à répertorier le nombre de chiffres des victimes civiles en 2009. Danielle Bell, directrice des droits de l'homme pour la mission de l'ONU en Afghanistan.
61% des victimes civiles sont attribuées à des éléments anti-gouvernementaux, 24% à des forces pro-gouvernementales et 10% à des affrontements au sol entre forces pro-gouvernementales et anti-gouvernementales qui ne peuvent pas être attribuées à un parti spécifique. Les 5% restants sont attribués aux restes d'explosifs de guerre. 86% des victimes des restes d'explosifs de guerre étaient des enfants, ce qui a entraîné une augmentation disproportionnée de victimes parmi les enfants. Les affrontements au sol demeurent la principale cause de pertes civiles, suivies des engins explosifs improvisés, des attentats suicides et complexes, d'exécutions ciblées, des restes d'explosifs de guerre et des opérations aériennes.
Des experts de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme ce lundi face à la répression croissante des ONG et des défenseurs des droits humains au Burundi. Spécialisés dans les droits humains, ces experts ont notamment condamné la récente interdiction et la suspension provisoire d'un certain nombre d'organisations de la société civile dans le pays. Ils demandent aux autorités burundaises de réviser la nouvelle législation sur les ONG. Le point avec Florence Wassegard.
Selon les experts de l'ONU, les dernières mesures prises par le gouvernement burundais contre la société civile sont particulièrement alarmantes compte tenu de la détérioration considérable depuis plus d'un an et demi de la situation des défenseurs des droits humains dans le pays. Ceux qui n'ont pas encore quitté le pays sont victimes d'intimidations incessantes, de menaces de détention arbitraire, de torture et de disparition forcée. Selon les experts, le ciblage systématique des organisations de défense des droits humains et des défenseurs des droits humains vise à supprimer toutes les voix dissidentes dans le pays. Et l'action des ONG locales et internationales est étroitement contrôlée. Pour les experts de l'ONU, ces mesures visent à indûment obstruer et criminaliser le travail des défenseurs des droits humains et de la société civile sur des bases vagues et souvent fallacieuses.
Au Moyen-Orient, la Knesset d'Israël doit se prononcer sur l'adoption d'un texte visant à régulariser plusieurs colonies de peuplement en Cisjordanie. Un projet de loi qui préoccupe Nikolaï Mladenov, le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient. Les explications d'Isabelle Dupuis.
Dans une déclaration publiée lundi, Nikolaï Mladenov a dit être préoccupé par le vote prévu de la soi-disant loi de régularisation. Celle-ci permettrait de continuer d'utiliser des terres détenues par des Palestiniens pour y construire des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie occupée. Le coordonnateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient a averti que si ce projet de loi venait à être adopté, il diminuerait grandement les perspectives de paix arabo-israélienne et aurait des conséquences juridiques considérables pour Israël. Nikolaï Mladenov a souligné que ce texte bafoue le droit international et que le procureur général d'Israël a d'ailleurs jugé qu'il est inconstitutionnel. Nikolaï Mladenov a exhorté les parlementaires israéliens à reconsidérer leur position, rappelant que les colonies de peuplement sont illégales aux yeux du droit international et qu'elles représentent de surcroît une des principales entraves à l'instauration de la paix.
La rouille du blé, une maladie fongique capable de ravager des cultures entières de blé sensibles et non traitées, gagne du terrain en Europe, en Afrique et en Asie. C'est ce que constatent deux nouvelles études réalisées par des scientifiques en collaboration avec la FAO. Ces rapports indiquent que de nouvelles souches nocives de rouille jaune et rouille noire sont apparues dans plusieurs régions du monde en 2016. Écoutons Fazil Dezounchali, agent agricole à la FAO.
Pour la rouille noire, il y a une nouvelle souche et les prévisions indiquent qu'elle peut se propager en Afrique du Nord et dans les pays du bassin méditerranéen où la rouille des tiges n'était pas un problème majeur auparavant. Et l'autre problème est la rouille jaune. Actuellement, deux nouvelles souches ont été identifiées. Une nouvelle souche détectée en Sicile, au Maroc et dans les pays scandinaves. Cette souche est aussi une nouvelle menace pour l'Europe, Afrique du Nord et de la Méditerranée en général. Et l'autre souche de la rouille jaune, F2012, a maintenant été détectée en Afrique de l'Est. Cette souche semble se propager rapidement et suscite de grandes inquiétudes dans ces régions.
En ce 6 février, nous marquons la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Malgré tous les progrès qui ont été faits pour abolir cette pratique néfaste, environ 3 millions de filles risquent de subir une forme d'excision forcée cette année. Elles se joindront aux quelques 200 millions de filles et de femmes à travers la planète. Pour en savoir plus sur cette pratique et la lutte que mène l'ONU pour accélérer son abandon, nous recevons dans nos studios Nafissatou Diop. Elle est la coordinatrice du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination des MGF.
La mutilation génitale féminine, c'est un certain nombre de procédures qui consistent en fait à couper les organes génitaux externes de la femme et de la petite fille. Donc il y a trois types. Un type qui consiste à couper une partie du clitoris de la petite fille en général. Une deuxième partie qui consiste à couper et le clitoris et les petites lèvres. Et une troisième qui consiste quelquefois à laisser intact à l'intérieur le clitoris et les petites lèvres, mais à coudre et à fermer les grandes lèvres de manière à ne laisser qu'un seul orifice, donc pour l'urine et les menstruations, ou à couper le clitoris, les petites lèvres et aussi à coudre, à fermer.
Quelles sont les séquelles de ces trois pratiques?
Alors, il y a beaucoup de conséquences sur la santé, comme vous le devinez, sont des cicatrices, des kéloïdes, parce que particulièrement les peaux noires sont sensibles aux kéloïdes, peut créer donc aussi des problèmes beaucoup plus difficiles, particulièrement quand c'est le troisième type que j'ai décrit, où la femme est fermée et où il y a juste un petit orifice qui est laissé. Quelquefois, cet orifice est trop petit et les urines ne s'écoulent pas facilement. Cela crée des problèmes d'infection, des problèmes de rétention des menstrues et autres, et beaucoup de souffrances dans le bas-ventre. Quelquefois, ça mène vers des interventions donc chirurgicales d'urgence. Mais une chose aussi qu'il faut noter, c'est qu'à long terme, donc des femmes qui peuvent ne pas avoir eu de complications au moment de l'excision peuvent se retrouver plusieurs années plus tard, quand elles commencent leur vie de femme, à avoir effectivement des difficultés à ce moment-là pour la délivrance normale d'un bébé. Ces femmes qui ont été excisées restent beaucoup plus longtemps dans des structures médicales, à l'hôpital et autres. Le taux de mortalité des nouveau-nés de ces femmes est beaucoup plus élevé. Mais bien entendu, il y a aussi un impact donc psychologique avec, comme vous le devinez, beaucoup de souffrances et de douleurs.
Cela fait 8 ans que l'ONU lutte contre cette pratique néfaste. Quel type d'efforts sont menés et est-ce qu'ils ont porté leurs fruits à ce jour?
Effectivement, l'objectif du programme des Nations Unies, c'est en premier l'élimination de la pratique. Mais en deuxième, c'est de prendre soin aussi des besoins des 200 millions de filles et de femmes qui sont déjà touchées par cette pratique. Aujourd'hui, nous touchons 17 pays, 16 en Afrique, plus le Yémen. La composante culturelle fait partie de toute l'approche sur les normes sociales. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Parce qu'on sait qu'il faut que le changement vienne de l'intérieur et que ce sont les communautés, les personnes elles-mêmes qui doivent reconnaître et dénoncer cette pratique. Mais aussi le côté donc protection et offre de services, y compris des services psychologiques, des services que l'on appelle de réparation, des réparations physiques, physiologiques, avec des chirurgiens. On a 1,6 million de filles et femmes qui ont pu bénéficier de ces services très particuliers.
Alors cette année, la journée contre la mutilation génitale féminine a été passée sous le thème « Jeter des ponts interactifs solides entre l'Afrique et le monde pour mettre fin à la mutilation génitale féminine pour 2030 ». Comment est-ce que l'on peut s'inscrire dans cette cause si on veut faire quelque chose en faveur justement de l'abandon de cette pratique?
Je crois que ça, c'est la question la plus importante aujourd'hui. Tout un chacun de chaque personne peut avoir son rôle à jouer. Pour la diaspora, vraiment, on compte sur la diaspora, n'est-ce pas, pour engager donc des discussions sur ces questions-là avec les familles qui sont restées au niveau de l'Afrique, avec les communautés autres et les villages qui soutiennent.
Et c'est avec Nafissatou Diop que se referme ce journal radio de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez CILS FM 107,9, Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Et l'info se poursuit dans l'émission. On va passer aux nouvelles provinciales. Un petit retour sur la météo. On a actuellement moins 1 à Victoria. La neige tombe toujours. La prudence est de mise sur les routes, surtout si vous avez des pneus d'été. Vaut mieux attendre que les conditions s'améliorent. Vous pouvez vous rendre bien sûr sur les portails meteo.gc.ca ainsi que Drive BC qui vous donneront les toutes dernières informations. Donc, à propos de cette neige, justement, il y avait un article aujourd'hui dans le Times Colonist, notre quotidien local, à propos des écoles qui avaient fermé ce matin. Ça s'est produit surtout dans la péninsule Saanich, donc au nord de Victoria. Les îles du Golfe étaient également concernées. Il y a eu des fermetures d'écoles primaires dans les îles du Golfe. À Saanich, l'école Pacific Christian a fermé, ainsi que l'école Queen Margaret du côté de Duncan. Et comme je le disais précédemment, les infos sur les vols au départ et à l'arrivée à Victoria sont bien sûr affichées sur le portail victoriaairport.com. Il y a eu des annulations, il y a eu beaucoup de délais aujourd'hui, donc si vous voulez avoir les dernières infos, victoriaairport.com. Sinon, encore du côté de Sydney, là où il est tombé un petit peu plus de neige qu'à Victoria, la GRC a procédé aujourd'hui à une très importante saisie de drogue. Très large quantité de substances illicites ont été saisies par la Gendarmerie royale du Canada. C'est rapporté par le Times Colonist aujourd'hui. En plus de la drogue, on a également saisi de l'argent liquide à hauteur $1 million. Vous trouverez ça dans les colonnes du Times Colonist en ligne sous la plume de la journaliste Katie DeRosa. Et on indique dans cet article que la GRC a travaillé en collaboration avec la police de Saanich. Donc plusieurs trafiquants de drogue ont été arrêtés aujourd'hui à l'issue de cette opération. Et du côté du portail Radio-Canada, Colombie-Britannique en français, taxe carbone, le NPD veut faire payer la facture aux entreprises polluantes. C'est une nouvelle qui date de vendredi, mais je tenais à vous la rapporter. Le chef de l'opposition britanno-colombienne, John Horgan, a énoncé la semaine dernière les grandes lignes du plan d'action du nouveau parti démocratique provincial pour contrer les changements climatiques si son parti est élu aux élections provinciales du printemps. Nous avons un vrai problème en matière d'action pour le climat, a dénoncé d'entrée de jeu John Horgan, affirmant que la province assistera à une escalade de la pollution si les libéraux sont à nouveau portés au pouvoir au mois de mai. Le chef du parti néo-démocrate soutient que le parti de la première ministre Christy Clark favorise les entreprises polluantes qui financent la campagne de cette dernière. L'équipe du chef John Horgan affirme avoir composé un plan qui réduira de façon draconienne les émissions polluantes de la Colombie-Britannique et créera de bons emplois durables tout en doublant le nombre de Britanno-Colombiens admissibles à un rabais sur l'augmentation de la taxe carbone fédérale. Nous voulons à nous assurer que les corporations qui sont les plus responsables de la pollution, fassent leur juste part en payant le gros de la facture, pas les familles de classe moyenne, a indiqué le leader néo-démocrate John Horgan. Donc vous trouverez cette nouvelle sur le portail de Radio-Canada. Taxe carbone, le NPD veut faire payer la facture aux entreprises polluantes. Si on se transporte maintenant dans les colonnes du Vancouver Sun, une nouvelle sur nos aînés, les personnes de troisième âge de la Colombie-Britannique, le défenseur des aînés attire l'attention sur une situation inquiétante. Le défenseur des aînés a sujet d'inquiétude, oui, à propos des antipsychotiques qui sont prescrits prescrit aux aînés alors que ceux-ci n'ont pas de diagnostic de psychose. Alors c'est un phénomène assez courant. Plusieurs aînés reçoivent ces médicaments sans en avoir nécessairement besoin et ces médicaments seraient à l'origine de certaines agressions entre les pensionnaires de maisons de retraite, de foyers pour personnes âgées. Donc les médicaments ont des effets secondaires. C'est d'autant plus inquiétant qu'ils sont prescrits abusivement. Cet article du Vancouver Sun rapporte que 27% des résidents de foyers pour personnes âgées prennent des antipsychotiques sans avoir de diagnostic psychiatrique afférent ou correspondant. Donc vous trouverez cette nouvelle dans les colonnes du Vancouver Sun. Antipsychotic medication may be causing care home aggression. Alors ça, c'est selon le défenseur des aînés, le BC Seniors Advocate. Et on passe des aînés aux enfants. Maintenant, le défenseur des enfants, il s'agit de Bernard Richard, un Acadien dont on avait parlé dans le débrief l'automne dernier. Alors, le défenseur des enfants de la Colombie-Britannique attire l'attention du public sur un cas de suicide d'un jeune qui vraiment éclaire le dysfonctionnement des services aux enfants de la province. Donc, défenseur des enfants de la province, Bernard Richard, a rendu public un rapport qui s'intitule « Broken Promises », des promesses brisées. Et ce rapport se concentre sur le cas du jeune Alex Gervais qui a sauté d'une fenêtre, il s'est défenestré, il s'est suicidé. Et c'est un enfant qui avait vécu dans 17 différentes maisons. Donc, il était trimballé par les services de l'enfance de la province. Et il a eu 23 travailleurs, travailleuses sociales différentes en charge de son dossier. Alors, c'était un enfant qui était en déambulation permanente, passant d'un foyer à l'autre. Et Bernard Richard, le défenseur des enfants de la province, croit que ces conditions l'ont poussé au suicide. Alors, c'est à lire, c'est dans le portail de la CBC. Children's Advocate says province failed teen at Abbotsford Hotel. Vous trouverez ça sur le portail de CBC. Sinon, côté francophone de la Société Radio-Canada, sur le portail britanno-colombien, les services à domicile honteux d'une quadriplégique de Surrey, Lana Turner, une femme quadriplégique de 55 ans vivant à Surrey en Colombie-Britannique, se plaint de la qualité des services de soutien à domicile dont elle bénéficie. Elle n'a pas été lavée depuis plusieurs semaines et n'est pas toujours nourrie. Donc, elle n'est pas nourrie tous les jours. C'est un reportage conjoint de Radio-Canada avec CBC. Vous trouverez la version française sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. C'est une dame de Campbell River qui habite maintenant dans la région de Surrey pour être plus proche de son enfant, de son fils de 22 ans. Et elle ne reçoit pas les services auxquels elle aurait droit. Les personnels soignants sont débordés. Et elle doit souvent faire un choix entre se nourrir ou obtenir des soins d'hygiène, par exemple. Alors, c'est rapporté sur le portail de Radio-Canada, je le disais. Sinon, c'est sur Yahoo News d'abord que j'ai repéré cette nouvelle qui avait originalement paru sur le portail de CBC. Un médecin de l'archipel Haida-Gwaii, donc archipel qui est situé au nord de l'île de Vancouver, un médecin d'Haida-Gwaii va quitter cet archipel, cette île, pour des raisons de difficultés d'accès à l'éducation en français. Le service d'éducation d'immersion française, le seul de l'archipel Haida-Gwaii, a fermé l'année dernière. Donc plusieurs parents se sont retrouvés avec des enfants qui n'avaient plus accès à l'immersion française. Donc il s'agit de la docteure Andrea Wilhelm. Elle a décidé de fermer sa pratique, de fermer sa clinique et de quitter Haida-Gwaii parce que elle tenait à ce que son enfant puisse poursuivre ses études en immersion française. Donc vous trouverez ça sur Yahoo News, mais aussi sur le portail de CBC. Idaguay doctor selling practice after doctor's French immersion program pulled. Donc après le retrait, la fermeture du programme d'immersion française. Malgré les pressions des parents, le programme ne sera pas rétabli, peut-on apprendre par ailleurs dans cet article. Et pour refermer ce bloc provincial, un petit coup d'œil sur la pénurie de logements du côté de Whistler. C'est assez criant, c'est un sujet dont on a déjà parlé dans l'émission Le Débrief. Alors la bonne nouvelle à Whistler, c'est que c'est le plein emploi, il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très très difficile de se loger. Il y a beaucoup de francophones dans cette ville située au nord de Vancouver, de cette station de ski très populaire. Et Radio-Canada a fait un reportage donc sur les difficultés d'accès au logement à Whistler. Il y a notamment le cas d'un jeune Québécois qui vit dans les bois, dans une caverne qu'il a construite de ses mains. Donc il est assez courageux. Le jour, il se rend travailler dans Whistler. Le soir, il rentre pour dormir dans sa cabane. Vous trouverez son témoignage. C'est un reportage vidéo sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Ça s'intitule « Pénurie de logements. Un Québécois vit dans la forêt à Whistler ». On s'arrête quelques instants en musique. Je vous propose d'entendre un artiste qui s'appelle Daniel Gauguin. L'album s'intitule Les Backroads et la pièce Bartender. On se retrouve dans quelques minutes avec les nouvelles du jour.
Bartender, ce soir fais-moi oublier toutes les choses qui m'ont l'aimer. Je reste ici et je vais boire jusqu'à ce qu'elle quitte ma mémoire. J'ai un passé que j'ai besoin d'oublier. Elle m'a quitté quelques jours passés. Et depuis, je ne comprends pas qu'après tout ce qu'on a fait ensemble, que son cœur est devenu si froid. Donne-moi ce que tu as de mieux pour enlever l'image devant mes yeux de son beau sourire qui maintenant me fait souffrir. Ce soir, fais-moi oublier toutes les choses qui m'ont fait l'aimer. Je reste ici et je vais boire jusqu'à ce qu'elle quitte ma mémoire. J'ai un passé que j'ai besoin d'oublier. J'ai un passé que j'ai besoin d'oublier.
Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre radio francophone communautaire dans le Grand Victoria. C'était Bartender de l'artiste Daniel Gauguin. L'info se poursuit dans Le Débrief. débrief, à 16h32. Merci d'être à l'écoute en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du 7 février. On va passer aux nouvelles du jour. C'est une nouvelle assez sidérante qui ouvre ce bloc des nouvelles du jour. Vous connaissez bien sûr Fukushima, un nom tristement célèbre, catastrophe survenue en 2011. Le portail Canoë nous rapporte qu'un niveau de radioactivité record a été découvert à Fukushima. Donc le problème n'est pas réglé du côté de cette centrale nucléaire japonaise. Presque 6 ans après la catastrophe nucléaire, la centrale Fukushima Daiichi continue d'inquiéter au Japon. Le 2 février, Tokyo Electric Power Co. ou TEPCO, l'opérateur de la centrale, a annoncé avoir détecté un niveau de radioactivité décrit comme inimaginable par certains experts dans l'enceinte d'un des réacteurs les plus endommagés lors de l'accident. Vous vous souvenez, cette catastrophe donc à la centrale Fukushima était survenue suite à un tremblement de terre et au tsunami qui avait suivi peu de temps après. Alors cet article paru dans Canoë se poursuit ainsi. Fin décembre, TEPCO a annoncé mener de nouvelles investigations à l'intérieur de la centrale. L'objectif, parvenir à déterminer l'état du cœur des réacteurs dont le combustible a fondu dans les heures qui ont suivi le séisme de 2011. Grâce à des simulations et des observations, l'Institut international de recherche sur le démantèlement nucléaire a estimé que le corium, c'est-à-dire ce mélange radioactif de combustible fondu et de débris, représenterait au total 880 tonnes. Cette masse impressionnante serait répartie dans les 3 réacteurs endommagés de la centrale. Or, savoir où se trouve exactement ce corium est indispensable pour envisager le démantèlement complet. C'est pourquoi la compagnie TEPCO a envoyé au cours du mois de janvier une petite caméra téléguidée au sein du réacteur numéro 2. C'est cette caméra qui a permis de détecter un taux de radioactivité record. Donc on parle de 530 sieverts par heure. Donc ça, c'est la mesure scientifique de cette radioactivité inimaginable comme la décrivent certains experts. Même en prenant compte de cette marge, le nouveau record est très nettement supérieur au précédent record qui avait été enregistré en 2012, un an après la catastrophe. Alors ce taux précédent était déjà considéré comme mortel. L'Institut national des sciences radiologiques a indiqué au Japan Times que les professionnels de santé n'ont jamais considéré faire face à un tel niveau de radiation. Donc ça n'est pas rassurant. Ce taux de radioactivité est d'autant plus préoccupant que TEPCO ignore à l'heure actuelle son origine exacte. Selon les experts, le démantèlement de la centrale pourrait prendre plus de 40 ans et le retrait en toute sécurité du combustible fondu représente un défi sans précédent dans l'histoire du nucléaire. En décembre, le gouvernement japonais a estimé que le coût total de l'opération de décontamination de la zone et de stockage des déchets radioactifs devrait atteindre plus de 170 milliards d'euros, soit le double des estimations qui avaient été faites en 2013. Donc Fukushima, ça demeure très inquiétant. Vous trouverez ça dans plusieurs médias. Pour ma part, je vous ai lu une nouvelle qui a apparu sur le portail Canoë, un niveau de radioactivité record découvert à Fukushima. Et puis ailleurs sur le web, évidemment, on parle de Donald Trump et c'est une nouvelle qui paraît sur le portail de Radio-Canada que je vous signale ici. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à la Maison-Blanche, la haine explose sur le web au Canada. Les propos controversés et parfois haineux du président des États-Unis semblent trouver un écho favorable auprès des Canadiens. Une étude commandée par CBC révèle que les propos intolérants et racistes sur Internet ont monté en flèche au Canada depuis que Donald Trump s'est lancé dans la course à la Maison-Blanche. Selon une étude réalisée par la compagnie Cision pour le compte de l'émission Marketplace de la CBC, la tenue de propos racistes par les Canadiens sur les médias sociaux, les blogs et les sections de commentaires en ligne a grimpé de 600% entre octobre 2015 et novembre 2016. Selon l'analyste médiatique de Cision, James Rubeck, Plus Donald Trump gagnait en popularité, plus les commentaires offensants et racistes augmentaient au Canada. Donc, cette étude affirme qu'il existe un lien entre l'ascension de Donald Trump vers la Maison-Blanche et l'augmentation de propos racistes sur Internet au Canada. Toujours à propos de Donald Trump, une nouvelle qui est parue vendredi, mais elle est très importante, je vous la signale, c'est dans le journal Les Affaires. Donald Trump signe l'arrêt de mort de la régulation bancaire. Donald Trump a signé vendredi deux directives sonnant la fin de la réglementation financière élaborée après la crise financière de 2008. Fidèle à sa promesse de déréguler l'économie américaine, mais donnant aussi satisfaction à Wall Street. Le président Trump a par effet un décret ordonnant un réexamen de l'ensemble des lois financières Dodd-Frank, qui avait été promulguée en 2010 par Barack Obama. Ces mesures étaient dans le collimateur à la fois du Parti républicain, mais aussi du secteur financier, donc Wall Street, qui dénonçait ces mesures comme un carcan nuisible tant pour les banques que pour les consommateurs. Donc cette loi Dodd-Frank, en fait, qui est un composé de différentes lois, a notamment permis de créer l'Agence de protection des consommateurs aux États-Unis, et ces lois imposaient aux banques de renforcer leurs capitaux propres et de se soumettre chaque année à un test de résistance, ce qu'on appelait dans le milieu les stress tests. Alors, ce sont des tests qui évaluent la solidité des banques en cas de crise. Et lorsque les crises surviennent, eh bien, c'est souvent les contribuables qui sont mis à contribution. Donc, Trump, lui, jette tout ça aux orties. Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais c'est le grand débarras. Il fait table rase des réglementation qui était très légère, disons, de Wall Street. Il donne satisfaction à Wall Street et à son parti, le Parti républicain, qui réclamait donc cette déréglementation majeure depuis des années. Donc, vous trouverez ça dans plusieurs médias. Je vous lisais l'article paru dans le portail Les Affaires, lesaffaires.com. Et toujours à propos de Trump, mes dernières petites nouvelles, c'est promis, Donald Trump a menacé l'université Berkeley en Californie, cette université prestigieuse qui est située tout près de San Francisco. Alors, la cause, en fait, c'est qu'un membre de son... Une des plus grandes voix conservatrices de l'alt-right, Milo Yiannopoulos, s'est fait rembarrer sur le campus de Berkeley. Il n'a pas pu prononcer la conférence qu'il devait prononcer sur le campus de cette université. Il y a eu une manifestation monstre et finalement, ce néo-conservateur anti-féministe et ouvertement raciste, Milo Yiannopoulos, n'a pas pu prendre la parole. Il était invité par le club des républicains du campus de Berkeley, mais en raison d'une manif très importante et de violence survenue autour du campus, cette conférence a été annulée. Alors, la réaction de Trump, bien sûr, à travers un de ses légendaires tweets, ça a été de menacer l'université de lui retirer son financement. Donc, c'est une nouvelle que vous trouverez un petit peu partout, bien sûr. Et on se transporte en France à présent. François Fillon, le candidat de la droite, gagnant de la primaire en 2016, reconnaît avoir erré en embauchant sa femme. C'est dans le fil de l'agence France Presse, publié dans Le Devoir et un peu partout sur la toile. Le candidat de droite à la présidentielle, François Fillon, a présenté lundi ses excuses aux Français pour avoir embauché sa femme comme aide parlementaire, tout en défendant la légalité de son travail face aux soupçons d'emploi fictif qui ont plombé une campagne qu'il entend relancer. Alors, il s'agit d'emplois présumés fictifs de son épouse Pénélope et de deux de ses enfants qu'il a salariés comme attachés parlementaires. Donc, on parle de près de 1 million d'euros sur une décennie en tout, grosso modo. Et le résultat de ce scandale, c'est que 68% des Français souhaitent maintenant qu'il renonce à sa candidature à la présidentielle de mai 2017. Les affaires s'accumulent dans le dossier François Fillon. Le quotidien Le Monde a dévoilé aujourd'hui de nouveaux éléments d'enquête embarrassants à propos d'une légion d'honneur qui aurait été attribuée à un homme d'affaires avec qui il était en lien. C'est un homme d'affaires qui rémunérait son épouse dans une revue, la revue Opinion. Alors, François Fillon aura du mal à relancer sa campagne. Certains dans sa propre famille songent à proposer d'autres candidats et de le remplacer finalement par un autre candidat pour la présidentielle de mai 2017. Mentionnons aussi que François Fillon a avoué à demi-mot avoir touché de l'argent détourné lorsqu'il était sénateur en vertu d'un système de commission occulte. Donc voilà, c'était quelqu'un en plus qui se présentait comme monsieur propre. Il avait, disait-il, une fiche parfaite, aucune corruption, aucun faux pas. Côté conflit d'intérêts, eh bien tout ça est tombé en morceaux au cours des derniers jours. Sinon, toujours du côté de la France qui se prépare à élire un nouveau président, il y a le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un coup de pub assez énorme. C'est rapporté dans tous les médias, même ceux qui s'efforçaient d'ignorer Jean-Luc Mélenchon ont été contraints de lui accorder un petit peu d'attention, puisque Mélenchon s'est présenté en double, en hologramme, à Paris et à Lyon en personne. Donc c'est un petit coup technologique. Je vous lis quelques lignes de l'article de Paris Match. Le candidat de la France insoumise à la présidentielle a tenu deux meetings simultanés ce dimanche 5 février, physiquement à Lyon et en hologramme à Paris. Et donc ça a fait bien rire ses partisans et qui l'ont acclamé. Jean-Luc Mélenchon qui s'est assuré un petit peu plus de visibilité dans cette course qui est encore impossible à prévoir complètement. En France, voilà. Sinon, en France toujours, mais cette fois, une nouvelle qui concerne une personne politique de chez nous, de notre pays. Il s'agit de Louise Baudouin. Elle a été décorée de la Légion d'honneur. L'ex-ministre Louise Baudouin, qui a fait carrière sous la bannière du PQ au Québec, a reçu le rang de grand officier de la Légion d'honneur, une décoration qui lui a été remise par le président français François Hollande en personne à l'Élysée. Alors, Louise Baudouin, qui avait été ministre des Relations internationales du gouvernement du Québec dans le passé, est déléguée générale du Québec à Paris. Et toujours du côté national, on apprend que la députée du Parti québécois Martine Ouellette briguera la direction du Bloc québécois à Ottawa. Donc Martine Ouellette qui se déplacera vers Ottawa pour tenter d'obtenir le poste de chef du Bloc québécois. Donc c'est rapporté dans la presse sous la plume de Louise Leduc. Martine Ouellette briguera la direction du Bloc québécois. Politique nationale encore, Rona Ambrose a passé ses vacances sur le yacht d'un milliardaire. C'est rapporté par l'agence QMI. La chef conservatrice intérimaire Rona Ambrose était en vacances sur le yacht d'un milliardaire en janvier le mois dernier, pendant que ses collègues critiquaient Justin Trudeau parce qu'il avait passé ses vacances à lui dans l'île privée de Laga Khan durant les fêtes de fin d'année. Ça a été rapporté en tout premier lieu par iPolitics, donc c'est ce portail très axé sur la politique canadienne qui a eu ce scoop. Donc selon ce média spécialisé, Rona Ambrose et son conjoint ont passé plusieurs jours du 3 au 14 janvier dans les Antilles sur le bateau de l'homme d'affaires Murray Edwards. C'est un homme d'affaires actif dans l'industrie des sables bitumineux. Il est copropriétaire de l'équipe des Flames de Calgary, dans la Ligue nationale de hockey. Alors, Rona Ambrose a tout de suite réagi en indiquant qu'elle n'avait enfreint aucune règle. Elle a assuré qu'elle avait payé son vol d'avion à destination de ces tropiques, donc dans les Antilles, et qu'elle avait d'abord soumis son projet de voyage au commissariat au conflit d'intérêts qui lui avait donné le feu vert. Cet article de l'agence QMI signale que Murray Edwards est un ami de longue date et un ancien collègue du conjoint de Madame Ambrose. C'était la journée sans téléphone portable aujourd'hui. Donc le défi consistait à se passer de son téléphone. Alors comme plusieurs d'entre nous sommes accros au téléphone, c'est assez difficile de réaliser ce défi, de surmonter ce challenge. Vous trouverez cette nouvelle dans le site ledauphiné.com. C'était la 17e édition de la journée mondiale sans téléphone portable. C'est une occasion de mesurer à quel point on est dépendant de ces petits appareils. Et finalement, pour refermer ce bloc nouvelle du jour, je vous signale que le groupe Média TFO a dévoilé son nouveau positionnement stratégique. Donc TFO, c'est la télévision publique francophone de l'Ontario. C'est une télé de service public qui a des visées, des ambitions nationales, pan-canadiennes, pas seulement en Ontario. Alors, le PDG de cette chaîne publique, Glenn O'Farrell, qu'on avait déjà interviewé ici à CILS dans l'émission Résonance, a présenté le nouveau positionnement à l'occasion de la conférence annuelle des producteurs canadiens-anglais à Ottawa. La conférence s'appelle Primetime. Et les trois grands mots clés de ce positionnement stratégique de TFO désormais, c'est le numérique, l'éducatif et le francophone, bien sûr. Donc, vous trouverez cette nouvelle un peu partout sur le web francophone et vous aurez le communiqué complet sur le portail de TFO. On fait quelques petits... on fait une petite pause musicale, quelques instants. On va se retrouver dans moins de 2 minutes pour aller à l'interview du jour. Je reçois Guy Matt en interview aujourd'hui. Il est directeur général de la Fondation pour le dialogue des cultures. Et nous parlons aujourd'hui des 19e rendez-vous de la francophonie, dont certaines activités se tiennent à Victoria et partout au Canada. À tout de suite. Alors, le temps nous manque pour faire la revue de presse des éditoriaux. Je vais vous signaler quelques grands titres tout de même. On a la banque HSBC, une énorme banque mondiale basée en Suisse qui s'est retrouvée sur le grill au Forum économique mondial de Davos récemment. Parce que HSBC a encouragé, à travers ses pratiques de prêts et d'investissements, la déforestation majeure en Indonésie. On sait que la forêt tropicale indonésienne brûle des millions d'hectares, des dizaines de millions d'hectares ont été perdus depuis 1990. Les émissions de CO2, on n'en parle même pas. Alors, HSBC, lors du Forum économique mondial de Davos, s'est retrouvé au cœur de la polémique et a dû répondre aux questions. C'est rapporté par le blog de Greenpeace, mais aussi par d'autres médias. Et c'est un journaliste du New York Times lors d'un panel qui a mis le PDG de HSBC sur le grill, oui, qui lui a fait répondre à des questions sur la déforestation en Indonésie. Vraiment un drame très important, non seulement en perte de biodiversité et de milieux naturels, mais aussi en raison des émissions massives de CO2 qui ont résulté de ces incendies. Autrement, il y a un très bon texte de la députée Manon Massé dans le journal Le Devoir. Manon Massé, c'est une porte-parole parlementaire par intérim de Québec solidaire. Elle est députée députée à l'Assemblée nationale du Québec. Elle revient sur l'attentat terroriste de Québec survenu le 30 janvier. Et son texte s'intitule « Est-ce qu'on pourrait montrer l'exemple ?» Elle invite les quatre partis présents à l'Assemblée nationale du Québec à faire bloc et à privilégier le dialogue. Donc c'est le propos en substance de Manon Massé dans ce texte publié en date du 4 février dans le journal Le Devoir. On se rend tout de suite à l'interview du jour avec Guy Matte. C'est dans un instant à CILS, il est 16h52, merci d'être à l'écoute.
Merci d'écouter CILS FM 107,9. En fin de journée, vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief. L'émission n'est pas terminée. On rejoint au bout du fil M. Guy Matte à Ottawa. Bonjour M. Matte.
Bonjour M. Gagnon.
Vous êtes directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Nous avions récemment parlé à l'une des membres de votre équipe, Catherine Carle, à propos du 175e de Laurier. Et aujourd'hui, c'est à propos des rendez-vous de la francophonie. Ça a lieu très bientôt, n'est-ce pas?
Oui, la période, c'est du 2 au 22 mars 2017. Vous savez, c'est cette période, c'est une période qui s'étend autour de la Journée internationale de la francophonie. Ça, c'est le 20 mars.
Oui.
Et le 20 mars, c'est la fête des centaines de millions de francophones à travers le monde. Et bien, nous, on fête autour de ça. On fait une grande fête à travers le Canada pour signaler notre présence, notre dynamisme à travers ces manifestations-là.
Alors, c'est pas seulement sur la colline parlementaire, dans la capitale. C'est vraiment d'un océan à l'autre, admare usque admare, comme on dit en latin.
Jusqu'à l'autre petite mer, celle du Nord aussi, parce que ça inclut les territoires.
Bon, d'accord. Donc, c'est vraiment complet sur toute la superficie. Par où commencer? Vous êtes sans doute le mieux placé pour me dire.
Ben écoutez, nous avons, durant cette période-là, ce que nous voulons favoriser, c'est la création d'un nombre d'activités qui font la démonstration de la vitalité, du dynamisme des communautés francophones et acadiennes, partout où elles se situent, mais en relation avec la majorité. C'est comment est-ce qu'on va s'assurer que nos compatriotes qui ne parlent pas français ou qui parlent français un petit peu, mais qui ne nous connaissent pas totalement, puissent voir que dans leur milieu, que ce soit à Victoria, que ce soit à Vancouver, à Kamloops, ou à Gravelbourg, ou même à Ottawa,
oui,
on puisse, que la majorité puisse dire, waouh, il y a beaucoup de choses qui se passent du côté francophone, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui est important pour nous, et pourquoi on ne s'y associe pas? Alors voilà l'ensemble, la raison pour laquelle on fait ces rendez-vous de la francophonie.
À quoi peut-on s'attendre?
Il y a deux sortes d'activités. Il y a des activités qui sont générées au niveau local ou régional et des activités qui sont générées par notre organisation au niveau national. Alors, au niveau local, vous allez trouver toutes sortes de choses, que ce soit des conférences, des spectacles, des ateliers, des activités protocolaires, comme par exemple quand votre assemblée législative proclame cette période-là comme étant les rendez-vous, comme étant signaler l'importance de la communauté francophone chez vous, des activités sociales, éducatives, des projections de films. Et si vous allez sur le site rvf.ca, vous allez trouver déjà quelque chose comme 80 activités qui sont déjà prévues juste en Colombie-Britannique. Et on n'a même pas encore rendu à la période des rendez-vous. Alors ça, c'est une première partie. La deuxième, c'est ce que nous faisons au niveau national. Quelles sont des choses qui se passent sur l'ensemble du territoire? Alors, une des choses que nous faisons, par exemple, ce sont les galas juste pour rire. Alors, on fait à travers le pays, on a 18 villes cette année où nous allons amener des humoristes québécois et des humoristes de chez nous, hors Québec, dans les différentes provinces, à différents endroits. Et chez vous,
oui,
à Victoria en particulier,
oui,
ça aura lieu le 9 mars au Da Vinci, au centre Da Vinci.
Est-ce qu'on connaît déjà l'identité des humoristes qui seront en présence?
Vous voulez que je vous les donne, là?
Oui.
Juste aux deux ou trois personnes, là.
Oui.
Juste entre vous et moi, là. On ne le dit à personne d'autre.
D'accord.
Là. Alors, ce sera animé par Mario Jean.
Oui.
Et il y aura Didier Lambert, Franck Grenier et Jesse Chihé.
Formidable.
Une bonne gang. Et c'est le 9 mars au Centre Da Vinci.
Au Centre Da Vinci,
ça,
oui.
C'est une des choses que nous faisons. On y en a comme ça dans 18 villes à travers le pays.
Et est-ce qu'on peut réserver sur RVF?
Vous pouvez réserver sur RVF, bonne question. Non, vous réservez auprès de votre centre, le centre lui-même, c'est le centre, si je me rappelle bien,
Da Vinci?
Vend les billets.
Oui, OK. Da Vinci qui est dans Victoria West, à côté d'Esquimalt. Parfait.
Voilà.
OK. C'est sensationnel. Donc, à marquer dans le calendrier en date du 9 mars. Autrement,
voilà.
On en est à la combientième édition de ces rendez-vous?
C'est la 19e édition.
Et comment ce grand rendez-vous pour francophiles et francophones a-t-il évolué au fil des éditions?
Bien, au départ, c'était plus une petite manifestation artistique qui se passait à travers le pays. On envoyait quelques chanteurs, habituellement une troupe de chant ou un artiste qui faisait un tour de chant. C'était plutôt pour entre nous, célébrer entre francophones. Ah oui, on s'aime bien, c'est important, il faut participer à la francophonie internationale. Et avec le temps, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut, s'ouvrir au reste des Canadiennes et des Canadiens pour faire la démonstration de notre présence, de notre dynamisme, de notre vitalité. Et c'est pour ça, par exemple, que l'on fait des choses même au niveau des anglophones. Une des activités que nous avons cette année, c'est que nous avons invité les écoles, en particulier les écoles d'immersion, à faire ce qu'on appelle un flash mob à ton école. Donc, ces élèves anglophones, mais qui étudient en français, vont nous envoyer une vidéo où ils participent ensemble sur une chanson en français. Et on va mettre ça, nous, cette vidéo-là, sur le site du rvf.ca. Et les gens pourront aller voter pour la meilleure, ce qu'ils trouvent le plus intéressant. Et c'est un concours. Donc, par exemple, si quelqu'un gagne ce concours et qu'il vient de Victoria, on va lui donner un billet pour aller à Bruxelles, incluant l'hôtel et des frais de séjour là-bas. Alors, c'est quand même intéressant de vérifier le site rvf.ca, parce que là, il y a toutes les activités, incluant tous les concours que nous parrainons.
Formidable. Et donc, ça, c'est le grand prix, un voyage à Bruxelles, tout frais payé.
Un voyage à Bruxelles pour celui-là. Il y a d'autres voyages. Il y a un voyage à Paris aussi. Si vous allez sur le site rvf.ca, il y aura le concours Air Canada. Et le concours Air Canada, lui, vous envoie à Paris. Ça s'appelle des rendez-vous branchés.
Oui.
Et quand vous allez sur le site rvf.ca, vous allez pouvoir voir, il y a un concours. Celui-là vous amène à Paris. Alors, si vous préférez pas Bruxelles, vous préférez Paris, ben vous irez à Paris.
Mais est-ce que ça s'adresse seulement aux jeunes, ces concours?
Le flash mob s'adresse aux écoles des écoles d'immersion,
oui,
ou autres écoles de langue française, s'il y en a qui sont intéressés. Mais c'est d'abord, on voulait d'abord cette année aller surtout sur les écoles d'immersion. Mais vous pouvez aussi,
oui,
participer à d'autres concours. Vous savez, il y a un concours qu'on appelle le concours Écris-moi sans faute.
Ah.
Vous le trouverez sur rvf.ca, puis vous le trouverez également dans le journal que nous apprêtons à publier, d'un million d'exemplaires et qui sera distribué à travers le pays. Dans ça, ça montre une dictée en anglais et une dictée en français.
Oui.
Il y a 1 000 $ au bout pour ceux qui participent et qui réussissent à faire...
Un parcours sans faute?
Pas que sans faute, voilà, dans ce concours-là. Puis on va tirer, on fait des gagnants là-dessus aussi. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs activités que les gens peuvent individuellement faire à partir de chez eux, à,
oui,
partir de leur ordinateur, ou encore qu'ils peuvent le faire dans les activités qui sont recensées sur le site. Comme par exemple, vous autres, vous avez quelque chose qui est très très intéressant qui s'appelle les jeudis...
Au début du mois, les jeudis, les 5 à 7 de la communauté francophone.
C'est intéressant ça, quand on met les francophones et les francophiles ensemble pour pratiquer le français, ceux qui veulent le faire. J'ai trouvé cette activité-là particulièrement intéressante chez vous. Alors,
oui,
tous les gens peuvent y participer. Là, c'est pas uniquement pour les francophones, ça. Là, c'est pour les gens qui,
non,
s'intéressent au français et qui veulent aller l'essayer. Alors, ils veulent aller pratiquer. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et même, vous savez, les organisations qui mettent leurs activités sur le site RVF là, pendant cette période-là, peuvent elles aussi gagner. Alors, ils mettent leur... là, on va faire des gagnants. On fait des gagnants partout parce que nous, donc, croyons qu'il est important que les francophones, les francophiles puissent participer, mais qu'on invite également nos compatriotes anglophones,
oui,
à participer à nos activités pour qu'ils puissent dire « Wow, c'est le fun de français après tout, c'est le fun des francophones, on s'amuse. »
Donc, cette manifestation-là est appuyée